Vous écoutez RTL.
Les 15h03, vous êtes sur RTL. On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand et les ados surdoués aujourd'hui.
Oui, oui. Est-ce que c'était votre cas? Vous, vous l'êtes de l'information, en tout cas, Marie-Guerrier.
Je vous remercie, c'est un compliment.
On vous retrouve à 16h, Marie, pour un prochain point sur l'actu. À tout à l'heure. Et dans un instant, effectivement, on va voir qu'être surdoué et ado, eh bien, ce n'est pas toujours un cadeau.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver dans En effet pour s'entendre. Ça va durer une heure et si tout va bien, comme chaque jour, on se dira aux alentours de 16 heures, mais qu'est-ce que c'était sympa. Et puis vivement demain. L'une de nos invitées de ce jour aurait pu témoigner lors de notre émission d'hier consacrée aux prénoms et entre autres aux prénoms originaux avec des accents d'ailleurs, plus ou moins lointains. Une émission qui a suscité un nombre incroyable de réactions et de messages. Jusqu'hier soir, justement, vous poursuiviez vos échanges sur notre page Facebook à 20h30, à 21h, à 21h30, c'est génial à regarder. Une émission donc très agréable que vous pouvez écouter à nouveau en replay sur rtl.fr. Elle s'appelle donc Tiana. Tiana, elle a 18 ans et elle écrit ceci. Si quelqu'un m'avait dit que j'étais surdouée, je lui aurais demandé s'il m'avait bien regardée. Discrète, moyenne en classe, sauf en musique et en français, où j'étais très bonne. Très curieuse de matières comme la chimie et l'SVT, mais nulle en maths et nulle en sport. Une élève moyenne donc, aimant les arts et un peu curieuse. D'ailleurs, même aujourd'hui, je me pose la question. En quoi suis-je surdouée? Tiana, au fil du temps et de l'écriture de son livre « Je suis un zèbre » aux éditions Payot, a trouvé certaines de ses réponses. Et elle va nous éclairer de son expérience parfois douloureuse et chaotique. Mais aujourd'hui, tout va bien. Est-ce qu'on peut dire que tout va bien, Tiana?
De là à dire que tout va bien, non.
Tout va mieux?
Tout va mieux, oui, mieux, c'est sûr. Les angoisses se sont calmées, mon appréhension du monde aussi. Mm-hmm. Je dirais que je me sens plus normale aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que... tout a disparu, j'ai passé plusieurs années compliquées. Je m'attendais pas à ce que ça guérisse du jour au lendemain, mais disons qu'aujourd'hui, je sais que ça va mieux.
Et ça se voit d'ailleurs. En tout cas, merci d'être notre invitée. Sois la bienvenue dans En effet pour s'entendre. Tiana, à tes côtés, le regard bienveillant de Monique de Kermadec. Monique, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Flavie.
Monique, vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, et je conseille donc à ceux qui se posent des questions votre ouvrage Pour que mon enfant réussisse. C'est chez Albin Michel. L'enfant précoce aujourd'hui, le préparer au monde de demain. Monique de Kermadec, c'est très difficile en fait de définir la douance. C'est quoi être surdoué, être précoce? Comment doit-on parler justement?
Oui, on
de
en
tout
parle
ça
souvent en termes de QI, ce qui est une définition un petit peu réductrice. Bien sûr, les enfants surdoués sont des enfants qui ont été très performants à des tests d'intelligence, mais c'est aussi un état d'esprit, c'est un regard sur le monde, une manière d'entrer en relation avec le monde.
C'est d'ailleurs ce que nous explique Tiana quand elle dit voilà, c'est ma façon de regarder le monde aujourd'hui. On a des témoignages qui nous arrivent régulièrement, qui nous parlent d'une sensibilité. Et Tiana, toi, on a vraiment le sentiment que tu poses un regard extrêmement sensible, voire parfois fragile sur le monde.
On m'avait dit que le surdoué avait plusieurs capacités, dont l'empathie et l'hypersensibilité. Je dirais que je souffre des deux de manière maximale. Je ressens les choses de manière beaucoup plus intense que je ne le devrais. Parfois, un tout petit mot, une toute petite réflexion qui ne voulait rien dire à la base va devenir pour moi une grande source de questionnement. Je vais pas arrêter d'y penser, je vais lui donner des proportions exagérées.
Est-ce que tu as le sentiment que c'est une chance, Tiana?
Non.
D'être précoce?
Oui et non. Personnellement, si j'avais pu ne pas l'être, j'aurais plutôt choisi de ne pas l'être. J'aurais volontiers changé ma précocité par rapport aux années qu'elle m'a apportées. Ensuite, je suppose que c'est pas une malédiction non plus. Plein d'enfants précoces arrivent à tirer parti de leur précocité, arrivent à utiliser ça comme un don, comme un talent, et c'est quelque chose. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est une chance ou une malédiction.
Monique de Kermadec.
Oui, je regrette d'entendre Tiana nous dire que quelque part ça a été une gêne pour elle, parce qu'on sait aussi que c'est un formidable atout et que on peut vivre des choses très très différentes en étant un enfant ou un adolescent surdoué. Certains seront heureux, légers, d'autres effectivement traverseront des périodes particulièrement difficiles pendant lesquelles ils vont avoir besoin d'aide.
Tiana, on le sent dans l'écriture de son ouvrage, s'est sentie très vite différente. Est-ce qu'effectivement, toutes les personnes précoces, et notamment les adolescents, ressentent ce décalage avec le monde qui les entoure?
Oui, ce qui étonne les adultes, c'est que je dirais même que cette perception de la différence peut arriver très tôt. Les enfants vont l'avoir dès le début du primaire, parce qu'ils sont déjà à un stade où la plupart savent lire, parlent de manière très élaborée et très riche, et ont des intérêts qui se démarquent très nettement des petits camarades. Moi, je me suis en maternelle, j'ai une petite fille un jour qui a été appelée, je dirais, par l'enseignante, qui a dit « Mais qu'est-ce que cet enfant peut bien avoir? Elle ne veut pas chanter les chansons que je donne. » Et la petite fille, elle est trouvée trop bébé et trop stupide. Donc, dès la maternelle, on peut se montrer comme étant différente dans ses choix.
Alors, on va se retrouver, si vous le voulez bien. Tiana, toi, tu es avec nous. Monique de Kermadec, vous êtes notre invitée, celle des auditeurs d'RTL également. Et vous, si vous souhaitez intervenir, vous le savez, votre place, elle est ici, entre 15h et 16h. C'est au 3210 et sur les réseaux sociaux. Et je me ferai l'écho en plein direct de vos messages. À tout de suite avec vous sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Vous écoutez RTL.
15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Allez-vous de temps en temps sur RTL.fr, parce que si vous voulez allier l'image au son, c'est le moment. Vous cliquez sur RTL.fr et coucou. Nous voici en compagnie de nos invités aujourd'hui, Tiana et Monique de Kermadec. On parle aujourd'hui des adolescents précoces. Cette période qui déjà, Monique de Kermadec, n'est pas une période simple. L'adolescence, on la traite régulièrement dans notre émission.
C'est une période de remise en question, de recherche de soi-même.
Alors, quand en plus, effectivement, on a le poids de ce décalage avec le monde qui nous entoure et qu'on n'a pas été diagnostiqué, il est possible qu'effectivement les entraves, les difficultés que l'on rencontre à l'adolescence soient d'autant plus difficiles à surmonter.
D'autant plus que les questions existentielles, comme le souligne bien Tiana dans son livre, les questions existentielles commencent très tôt. Et généralement, pour les autres, c'est plutôt à l'adolescence que l'on va se poser les questions sur la vie, la mort, le sens de cette vie. Je dirais que chez l'enfant précoce, on le voit apparaître beaucoup plus tôt. Ce sont des enfants qui sont particulièrement sensibles, particulièrement observateurs, qui attendent beaucoup du monde, qui attendent aussi beaucoup d'eux-mêmes. Ce sont des enfants curieux, ce sont des enfants qui sont très intenses. Je dirais que les parents, souvent, se déclarent épuisés par les questions, par la façon de faire l'attente de l'enfant.
Est-ce que la curiosité fait partie des premiers signaux de la précocité?
Ah, je dirais que chez les bébés, c'est le regard. Le premier signe, c'est le regard et la curiosité dans le regard, l'intensité du regard. Mais peut-être que votre mère, Tiana, vous en a parlé et vous a dit que quand vous étiez petite, elle avait déjà remarqué cela chez vous.
Elle m'a parlé de plusieurs petites bizarreries que j'avais quand j'étais petite.
Mais... Lesquelles, par exemple?
Dans le regard, non, mais elle m'avait raconté qu'un jour, elle s'amusait à me faire des bruits bizarres, à me faire des petits boudiniens, des machins comme ça. Et elle me soulève, elle me regarde, elle me fait... Et en fait, je la regarde et je réponds. Et à l'époque, j'étais tout bébé, ça l'avait vachement marqué. Ensuite, je ne sais pas si elle m'a raconté d'autres histoires comme ça.
Non, mais c'est une façon de se connecter, d'être très connecté finalement au monde quand ils sont bébés.
Oui, il y a une recherche de contact et il y a vraiment un échange dont l'adulte est tout à fait... je veux dire qu'il perçoit et auquel... c'est un jeu auquel l'adulte a envie de se prêter parce que l'enfant répond.
Est-ce que l'enfant sent, Monique de Kermadec, très tôt qu'il est différent, avant même que les adultes puissent le percevoir? Est-ce que cet enfant se sent en décalage dans les témoignages que vous avez pu recevoir?
Je dirais que ça va être surtout dans la rencontre avec d'autres enfants que la différence va apparaître. Oui. Parce que tant qu'on est avec des adultes, l'enfant se trouve normal et la situation paraît normale. Mais lorsque les petits camarades ont du mal à comprendre parce qu'on a un vocabulaire qui est riche, parce qu'on s'exprime bien, à ce moment-là, on peut commencer à se sentir seul et avoir du mal à avoir des amis.
C'est la collectivité, en fait, qui peut révéler...
avec le monde extérieur.
La précocité d'un enfant. C'est vrai, quand ça n'est pas diagnostiqué assez tôt, on peut louper le coche de certains moments de l'existence.
Tout à fait, parce qu'il y a certaines attentions qui vont favoriser le développement des talents de l'enfant. Et si l'enfant apparaît simplement bizarre et ne reçoit pas une réponse positive, il peut souffrir de ce qui se passe en classe ou de ce qui se passe dans le groupe.
Tiana, si je lis quelques lignes de ton ouvrage, les premières d'ailleurs. Hein, quand je regarde les jeunes de mon âge dans la cour du collège, je me dis que j'ai un problème. Ils sont tous là, à rire, à plaisanter comme si de rien n'était. Ils sont simplement bien. Ils profitent du moment présent, du prof absent, du soleil cet après-midi, de l'autorisation d'un parent de rentrer tard de la soirée de l'un, d'un nouveau petit ami d'une autre. C'est si naturel, c'est si normal. Je me demande pourquoi moi, je n'en suis pas capable. Est-ce que ces questionnements-là, là tu nous parles du collège, est-ce que ces questionnements-là, tu les as eus déjà plus tôt ?
Je dirais qu'au collège, ça s'est... Je saurais pas dire à partir de quand je pouvais voir que j'étais différente. Déjà plus petite, j'étais une enfant particulière, c'est sûr. Je dirais qu'à partir de CM2, j'ai commencé à ressentir un très léger décalage avec les autres, mais j'y ai jamais vraiment prêté attention. C'est vraiment au collège que j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi. C'est vraiment là que j'ai senti vraiment une barrière presque réelle, presque physique, tellement elle était intense entre moi et les autres.
Monique ?
Oui, parce que je pensais qu'au collège, le phénomène de groupe commence à devenir important. On a besoin d'être populaire. Et si d'une façon ou d'une autre on est extérieur au groupe, là on se sent particulièrement seul. Ça ne se vit pas de manière aussi intense dans les classes primaires.
Voilà, donc c'est là où effectivement pour toi ça a été une période compliquée à gérer, Tiana. Est-ce que le fait de te voir diagnostiquer cette précocité a été un soulagement pour toi ? Est-ce que tu as justement trouvé des réponses à ces questions que tu pouvais te poser ?
Oui. Donc je vais pas parler de tout ce qui s'est passé avant, mais moi et ma mère, on a souffert d'une errance dans le diagnostic.
Une sorte de nomadisme.
C'est ça. On est passé d'un médecin à l'autre qui nous a recommandé un spécialiste, qui nous a recommandé un collègue, qui nous a donné un nouveau diagnostic, un nouveau traitement, et encore c'était pas le bon. Il fallait recommencer avec un autre médecin qui allait donner encore un autre diagnostic, et ça collait jamais, et le traitement était jamais bon, et j'allais jamais mieux. Et un jour, on a rencontré donc Jeanne Sauffrechin, cette psychologue, qui nous a donné un vrai diagnostic. Il m'a dit, voilà, Tiana est surdouée, c'est une enfant précoce, ce n'est pas une maladie, maintenant elle va aller mieux. C'est un vrai soulagement déjà de savoir ce qu'on est. J'étais pas bizarre, j'étais pas malade, j'étais surdouée, c'est tout. Et c'était fini de l'errance, j'ai trouvé un endroit où j'ai pu guérir, où j'ai pu aller mieux. Je me suis dit, il y a des gens comme moi. Je suis pas toute seule, il y a une façon de s'en sortir.
Le diagnostic, on va en parler avec vous dans un instant, Monique de Kermadec. Vous pourrez répondre aux questions que nos auditeurs se posent. À tout de suite avec vous, surtout n'hésitez pas, 3210, les réseaux sociaux.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alexandre nous a laissé un message sur Facebook. Mon fils Joris, qui a 7 ans, est déjà en CM1. Il sait qu'il est précoce par rapport aux enfants de son âge, mais c'est un petit garçon comme les autres. Il joue aux jeux de son âge, les voitures, les billes, mais il aime surtout la lecture. Et puis Léonie, qui nous a également joint. Je n'ai pas été dépistée à l'adolescence, mais à l'âge adulte. Ce n'est pas évident, mais cela permet de mettre le doigt sur beaucoup de difficultés et de voir comment arranger tout cela. Dans un instant, nous allons donner la parole à Stéphanie, qui est la maman d'un petit garçon qui lui-même est précoce. Mais pour l'heure, Tiana, à quel âge as-tu été diagnostiquée précoce ?
À l'âge de 15 ans.
C'est tard, Monique. Ça laisse le temps de s'interroger.
Effectivement, tout à l'heure, Tiana évoquait le long parcours qu'elle a fait. De façon, je dirais, positive, il vaudrait mieux être testée jeune pour pouvoir bien comprendre les besoins d'un enfant et la meilleure façon d'y répondre.
Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de tests. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, justement, comment se pose ce diagnostic et surtout, comment éviter cette errance, ce nomadisme médical qu'a vécu Tiana et sa maman ?
Alors parfois, les parents sont aidés par les pédiatres parce qu'aujourd'hui, informés, les pédiatres vont dire aux familles « Votre enfant me donne des signes d'avance, vous devriez penser éventuellement à le faire tester. » Ça peut être l'école, une enseignante attentive va dire « Votre enfant montre une avance, s'ennuie, attend. Est-ce qu'on ne devrait pas accélérer le rythme ? Apportez-nous la preuve de certaines facilités. » Autrement, aujourd'hui quand même, grâce à de nombreuses émissions, aux lectures et tout cela, les parents sont de plus en plus informés. Le diagnostic peut être important et si nous le portons tôt, ça permet d'éviter parfois de grosses difficultés à l'enfant ou à l'adolescent.
C'est passé par quoi le diagnostic pour toi ? En tout cas ce test, Tiana, ça n'a pas été un test de connaissance. En fait, c'est plus la façon dont vous fonctionnez que l'on teste et que l'on met en avant.
C'est ce qu'on m'avait expliqué. Le test, il était en soi assez simple. C'était des petits cubes de couleurs qu'il fallait assembler pour donner une forme. C'était des séries d'images où il fallait donner des liens entre différentes images. C'était des séries de nombres, il fallait les retenir, les redire à l'envers, des trucs comme ça. Et on m'avait expliqué que si on regardait mon quotient intellectuel, j'étais pas du tout surdouée. En fait, mon quotient n'était pas juste. Et on s'était basé sur la façon sur laquelle de faire le test.
Oui.
Parce qu'on m'avait expliqué que sur le moment, déjà, j'étais sur une très mauvaise période, j'étais particulièrement dépressive, j'allais très très mal. Et du coup, en fait, le test n'était pas véridique. Il n'était pas...
Ça altérait en tout cas la véracité du test.
Le test n'était pas bon si on ne s'en fiait qu'au cuit. En revanche, la méthode, la façon de le remplir prouvait bien ma précocité.
Surtout, la précocité n'est pas qu'une question de QI.
Ah oui, alors tout à fait.
Il faut le préciser. Ben oui, c'est pour ça que je vous regarde, Monique.
Mais on a tendance à le confirmer aujourd'hui et on en parle encore en termes de QI. Ce QI permet quand même de voir le fonctionnement de différents modes de pensée que nous utilisons à la fois dans la vie et dans notre parcours scolaire. Donc, il compte quelque part. Bien évidemment, il faut tenir compte aussi de la personnalité de la personne, car si on établit un diagnostic, on doit être aussi précis que possible. Car depuis quelque temps, j'insiste beaucoup sur le fait que être surdoué n'est pas une fin en soi. On peut être surdoué, mais avoir aussi d'autres sources de souffrance que l'on ne doit pas négliger.
Stéphanie, bonjour, bienvenue sur RTL.
Bonjour, merci.
Vous avez un petit garçon, Stéphanie.
Oui, tout à fait.
Comment s'appelle-t-il, ce petit bonhomme ?
Artus.
Très bien. Alors, Artus, lui, ça y est, il a été diagnostiqué, il a été testé, comme le dit Monique de Kermadec.
Oui, tout à fait. Il a été testé 4 ans et 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça.
Qu'est-ce qu'il avait de si particulier, ce petit bonhomme ?
Il avait tout ce que vous avez déjà évoqué un peu plus tôt dans l'émission, notamment tout bébé... Ce regard, cette avidité, cette curiosité, cette intensité du regard, et puis après tous les apprentissages moteurs, langagiers, etc., qui se sont suivis et qui ont été quand même assez vite, même après au niveau de la propreté. Enfin, bon, c'est un petit garçon qui s'exprimait parfaitement à 18 mois, qui faisait des phrases, qui était propre jour et nuit très tôt, et puis qui avait une soif de connaître tout un tas de choses, de découvrir, et puis déjà très petit, une sensibilité très très particulière.
Est-ce que ça a été une source d'inquiétude pour vous, ou est-ce que le fait de voir poser le diagnostic vous fait voir l'avenir différemment?
Alors en fait, c'est vrai que ce qui était un petit peu différent, c'est que on s'en doutait avec son papa depuis qu'il était petit, parce qu'on a été familiarisés nous-mêmes à ça, alors à des âges différents. Donc finalement, c'est le diagnostic qui est venu confirmer ce qu'on pensait, et ça nous a surtout permis de comprendre avec détail justement les forces, les faiblesses ou les choses un petit peu plus difficiles pour lui, sur lesquelles on pouvait essayer de l'accompagner. Et après, ça nous a été d'une aide précieuse quand finalement la scolarisation en milieu classique, je dirais, a été particulièrement douloureuse, et nous, on a fait le choix, après beaucoup beaucoup de réflexions, de le mettre dans une école qui est spécialisée pour ses enfants. Alors bon, il y a des pour, des contre, mais globalement, il a vraiment retrouvé le sourire, le goût d'aller à l'école, et on le voit vraiment épanoui depuis.
Vous restez avec nous, Stéphanie. On va se retrouver dans un instant avec Monique de Kermadec, avec Tiana, et Anne aussi participera à notre conversation. A tout de suite.
On est fait pour s'entendre.
RTL. Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
L'appellation exacte faite par mes psys est enfant à haut potentiel. Pardonnez-moi, j'ai un petit problème de lecture. Nous a écrit Céline. Mon fils a été diagnostiqué comme tel l'année dernière par une psy, chez laquelle je l'ai amené suite à des problèmes de stress, d'angoisse et de manque de confiance en lui, et qui se traduisait par beaucoup de colère. Ce n'est pas facile pour ses enfants, et cela peut engendrer un véritable mal-être. D'où, effectivement, l'importance peut-être de diagnostiquer tôt cette fameuse précocité. Et ça a été le cas du petit garçon de Stéphanie, qui est en ligne avec nous. Ce petit Artus, donc, qui a été testé très tôt, puisque visiblement, Stéphanie, vous aviez été sensibilisée à la précocité dans votre famille. Est-ce à dire que vous l'êtes aussi ?
Oui, tout à fait, je le suis, et mon mari également. Donc, on s'en est rendu compte, moi à l'âge adulte, et mon mari plutôt dans son histoire, puisque lui, il avait des troubles d'apprentissage maintenant, et donc du coup, il a fallu le tester pour montrer qu'il n'était pas dit comme on a pu faire à ses parents. Voilà, donc à l'époque. Donc voilà, ça a été deux parcours différents, et moi, j'ai découvert à l'âge adulte. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup de contacts avec des adolescents, des enfants, des adultes à haut potentiel. Et à un moment, j'ai me suis posé la question et du coup j'ai décidé de passer de
le temps peut-être que vous retrouviez une zone où on va arriver à vous entendre. On va parvenir à bien vous entendre.
Je vous entends bien, moi.
Très bien, on avait un petit souci là juste de réseau il y a un instant. Monique de Kermadec, il y a une hérédité dans la précocité ou c'est une question culturelle?
Stéphanie a apporté un point important qui est la part héréditaire de l'intelligence, de certains dons aussi, hein, au-delà de cette intelligence cognitive. On n'a jamais vraiment réussi à quantifier très exactement quelle était la part héréditaire, quelle était la part liée à l'apprentissage. On sait que dans un contexte positif, une personne va être incitée à donner le meilleur d'elle-même et peut augmenter son QI jusqu'à 10 points de QI. Mais lorsqu'on retrouve après un contexte normal, il y a potentiellement une régression.
Donc vous nous expliquez qu'on a un QI
Le QI que l'on mesure au moment d'un test est censé être la note minimale à un moment donné. Mais on sait que dans un contexte favorable, on va être plus performant. Il y a d'autres moments de vie où lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on est anxieux, on va être nettement moins performant à un test, bien sûr.
C'est la raison pour laquelle Artus est dans une école aussi stimulante dans laquelle il retrouve des petits garçons qui et des petites filles qui lui ressemblent en fait, Stéphanie.
Tout à fait, oui. Vous m'entendez bien là?
Là, on vous entend bien, vous pouvez y aller.
Voilà. Oui, en fait, on a fait ce choix. Ce n'était pas du tout un premier choix. On a la volonté forcément de le mettre dans ce qui pouvait nous paraître un peu, au départ, un bocal. Quoi,
oui, je comprends. Disant,
bon, il va être qu'avec des enfants comme lui, et puis après, et alors, et comment on fait? Mais bon, il y a eu une telle... il a vraiment adhéré dès les premiers moments où il a été dans cette école. On a vu vraiment des étoiles dans ses yeux. Il nous a lui-même dit que c'était vraiment l'école dans laquelle il se sentait bien. Et le départ, en fait, dans la vie scolaire avait été tellement douloureux qu'il y avait une vraie souffrance et qu'au départ, on l'a mis là, même au départ, même pas pour développer des capacités
bien ou sûr.
Des choses comme ça, mais juste pour qu'il reprenne le chemin de l'école serein. Et voilà. Et bon, bah, il a transformé largement l'essai puisque finalement, maintenant, voilà, il a très bien avancé, mais c'est surtout ça qui nous a fait le laisser pour l'instant. C'est sa troisième année et vraiment,
super.
Il est très content.
Très bien. Qu'est-ce qu'il veut faire quand il sera grand, Artus? Il veut travailler dans les transports?
En
ce moment,
ce n'est
pas vraiment la branche la plus sereine. Hein.
Ouais, il va être beaucoup de choses à la fois, chauffeur de bus, pédiatre et saxophoniste.
Ah, donc, super. Et s'il fait tout en même temps, c'est carrément génial, quoi. Un chauffeur de bus qui joue du saxo, franchement, c'est une super idée.
Et merci. Qui soigne les enfants dans son bus, peut-être.
Et en plus, écoutez, merci en tout cas pour votre témoignage, Stéphanie. Embrasse et vous embrasserez Artus, évidemment. Monique de Kermadec, vous voulez rajouter quelque chose?
Je dis une question que je pose toujours aux tout-petits. Que veux-tu faire plus tard? Et on a parfois des réponses absolument exceptionnelles. Un jour, j'ai une petite fille qui voulait un métier différent pour chaque jour, parce qu'elle voulait être sûre de ne pas s'embêter plus tard. J'ai pas mal de chercheurs et un jour j'en ai une qui m'a dit je vais être trouveuse parce qu'elle ne voulait pas perdre de temps.
Merci Stéphanie, on vous embrasse. À bientôt. Tiana, avant que l'on donne la parole à Anne, qu'est-ce que tu voulais faire toi quand tu étais petite?
C'est amusant parce que moi aussi je voulais faire un métier différent chaque jour. J'avais prévu un métier pour chaque jour de la semaine.
7 métiers, d'accord. Donc ça va. Parce que j'en cherchais 365, je me dis. Aujourd'hui, tu as des velléités artistiques?
Oui. Alors j'ai voulu faire agricultrice. Ensuite,
c'est un joli métier aussi. Oui.
Mais aujourd'hui, je me suis plus penchée sur le côté artistique. J'aimerais soit travailler dans la musique comme chanteuse ou interprète ou parolière, ou alors plutôt dans l'écriture comme romancière.
Ah oui, parce que là, les mots pour toi, c'est extrêmement important. On a compris que... Et d'ailleurs, on le comprend quand on lit ton ouvrage. On va se retrouver dans un instant. Anne, on va vous donner la parole. Elle est maman de 5 ados. Anne, et visiblement, ça cogite sérieux à la maison. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous, merci pour votre fidélité, merci pour l'accueil que vous nous réservez chaque jour entre 15h et 16h sur l'antenne d'RTL. Je dis nous, c'est notre équipe, évidemment, toute l'équipe d'En effet pour s'entendre, moi-même, mais également nos invités. Aujourd'hui, Tiana, qui est une jeune femme de 18 ans, auteure d'un ouvrage que vous pouvez retrouver aux éditions Payot, Je suis un zèbre. Tiana est avec nous aujourd'hui. Et puis à ses côtés, Monique de Kermadec, l'enfant précoce aujourd'hui, le préparer au monde de demain, chez Albin Michel. Monique qui nous éclaire de son expérience de spécialiste, justement de ce sujet. Et puis si vous le voulez bien, on va tout de suite donner la parole à Anne. Anne, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Flavie.
5 enfants.
Je suis très contente.
Oui, pardon, moi aussi je suis très contente. De quoi êtes-vous contente avant que je ne me trompe?
D'être sur votre antenne, parce que je vous écoute très régulièrement.
Eh bien, je vous remercie. Nous aussi, on est très heureux de pouvoir vous accueillir, Anne. Donc, on est tous contents, ça c'est déjà une chose. Et alors, pardonnez-moi, j'avais l'enthousiasme comme ça qui m'emportait en disant 5 enfants, félicitations.
Oui, c'est une joyeuse équipe.
Ah bah vous m'étonnez. Et puis, en plus, une équipe de 5 précoces, donc ça fait une sacrée équipe.
Alors, précoce, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, parce qu'ils vont garder cette différence toute leur vie.
Ouais.
Et c'est plutôt 5 zèbres, et parce que je trouve qu'ils sont indomptables, différents, et gardent leur différence. Ils vont de 11 ans à 17 ans et demi.
Ouais.
Donc, c'est assez compliqué, mais c'est beaucoup de joie, mais c'est compliqué quand même.
Qu'est-ce qu'il y a de compliqué ?
L'école.
Pourquoi ?
Alors déjà, le goût de l'effort. Le goût de l'effort est nullissime, pas chez tous, mais chez une majorité, parce que tout arrive rapidement, facilement.
Mmh.
Alors, si on ne fait pas les choses à l'extérieur pour nourrir ce goût de l'effort, c'est difficile. J'en ai deux qui ont eu beaucoup, beaucoup de mal, hein, parce que ils le disent eux-mêmes, hein, c'est difficile le goût de l'effort. Alors, c'est par la musique, par les choses extérieures qu'on peut leur donner.
Mm-hmm.
Moi, je trouve aussi que, je parle pour mes enfants, hein,
oui.
L'école ne nourrit pas. Ils s'ennuient, surtout un, celui qui est en cinquième, mais à mourir. Vraiment, ils s'ennuient. On a essayé de voir des choses, mais c'est compliqué dans les écoles. Ils ne sont pas forcément à entendre ça. Par exemple, l'aîné, on l'a fait tester. De toute façon, mon papa, enfin, c'est familial, hein, mes frères, mon papa. L'aîné, on l'a fait tester parce que à l'école, en CE2, ils ont demandé à la faire tester. Ils ont dit, en tout début d'année de CE2, elle a refusé de faire un exercice de bled parce qu'elle a dit au professeur, je ne vais pas faire un exercice d'orthographe alors que je lis plus de 1500 pages par semaine, je le connais l'orthographe. Là, il m'a dit, il faut peut-être faire tester.
Et alors aujourd'hui, donc, ils ont entre 11 et 17 ans et demi. J'imagine qu'ils sont tous différents aussi dans leur façon de vivre cette zébritude. On va revenir d'ailleurs sur le terme employé.
Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez l'aînée qui, elle, on est obligé de la retirer au début en 6e, 5e, on l'a retirée, on l'a mise dans une classe de précoce parce qu'elle avait besoin d'être avec ses pères PAIRS.
Mm-hmm.
Elle déprimait, elle commençait une dépression, vraiment une dépression par ennui, pourtant dans un collège qui est dit d'excellence, mais elle s'ennuyait vraiment. La seconde, elle s'est toujours crue, elle a en plus, avec sa précocité, elle est dysorthographique, donc elle a toujours fallu qu'elle rame et qu'elle travaille pour y arriver parce que la dysorthographie, c'est difficile.
Bien sûr.
Donc elle, le goût de l'effort, elle l'a. La troisième, elle est brillante en tout, sauf à l'école, parce qu'elle ne fait pas. Alors, il y a aussi une chose, vous disiez aussi que le cerveau ne s'arrête jamais. J'en ai quand même deux qui me disent, mais cette prise que j'ai dans le cerveau, est-ce qu'on pourrait l'arracher ?
Oui.
Est-ce que j'ai un bouton on-off ?
Je comprends. Ils sont épuisés par leur propre cerveau.
Ils n'arrivent pas à s'arrêter.
Très bien.
Ils se posent des questions métaphysiques à longueur de journée. Nuit surtout.
Ce qui était ton cas, Tiana, aussi. Hein. Toi, très tôt, tu t'es posé des questions, des questions graves, d'ailleurs, hein, sur le sens de l'existence. C'est difficile. Hein. Quand on s'est posé à 40, c'est déjà pas facile. Mais alors, j'imagine quand on s'est posé à 12-13 ans, c'est quand même douloureux.
Je me l'ai posé avant ça, quand j'étais petite. J'avais une question qui me rendait malade dans mon lit la nuit quand j'avais rien à penser, qui me mettait dans des états d'angoisse horribles. C'était, est-ce que l'univers était infini ? J'avais tendance à essayer d'imaginer jusqu'où pouvait aller l'univers. Il pouvait pas être infini. Du coup, j'imaginais un mur et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mur ? J'arrivais pas à arrêter d'y penser. Ça me rendait dingue.
Voilà. Et c'est fou, Monique de Kermadec.
Ça fait penser au petit garçon qui, lui, la nuit, se demandait ce qui allait se passer si la Terre s'arrêtait de tourner. Est-ce qu'on allait tomber indéfiniment ou est-ce qu'on allait s'écraser comme dans les dessins animés ? Donc effectivement, un enfant tout petit peut se poser des questions auxquelles même nous, adultes, nous restons parfois sans réponse. Mais il est important qu'ils puissent oser en parler aux adultes et qu'ils cherchent ensemble.
Voilà, c'est effectivement la libération de la parole qui aide. Et d'ailleurs, ça fait partie des conseils que tu donnes, Tiana, dans ton ouvrage. Monique de Kermadec, on vient d'écouter Anne. Anne, vous avez vraiment insisté sur l'ennui qui est l'angoisse finalement des enfants. Monique de Kermadec, c'est effectivement quelque part une angoisse partagé par la famille, c'est-à-dire cette idée de pouvoir à un moment donné occuper l'esprit, rassasier les appétits.
Tout à fait. Je pense que l'ennui arrive en classe lorsque on est dans une structure qui accueille déjà une trentaine d'élèves, donc l'enseignant n'a pas l'occasion de faire parler chaque enfant chaque jour. L'ennui arrive quand on ne peut pas s'exprimer et qu'on reste toute une journée sans bouger, les bras croisés et silencieux. L'ennui peut venir aussi parce que on ne va pas assez vite. Certains enfants apprennent plus vite que d'autres.
Que veulent faire vos enfants, Anne ?
Excusez-moi, je n'ai pas entendu.
Que veulent faire vos enfants ?
Alors, le quatrième, là, qui s'ennuie beaucoup à l'école, depuis qu'il est né, il dessine des moteurs de fusée. Il veut travailler au CNRS de Toulouse dans les moteurs de fusée.
D'accord. Et
il a déjà, depuis qu'il a 5 ans, était sur Internet, 6 ans, était sur Internet pour voir tout son parcours professionnel. Il trouvait que super-héros ne suffisait pas. Il veut faire d'abord polytechnique pour apprendre plusieurs techniques.
D'accord.
Et surtout, être majeur de polytechnique pour porter le drapeau sur les Champs-Élysées au 14 juillet.
Vous voyez, bon, bah, écoutez, j'espère qu'il nous tiendra au courant lors du prochain défilé, quand même. Vous lui direz qu'on aille tous l'applaudir. Delphine, rapidement, que veut-elle faire ?
Delphine, là, pour l'instant, alors elle est très empathique parce que c'est une facette de la précocité, l'empathie.
D'accord.
Et donc, elle veut être institutrice pour changer les choses. Elle s'est tellement aimée à l'école qu'elle veut changer les choses.
Ce sont des sentimentaux. Hein. Cécile ?
Alors Cécile, elle ne sait pas.
D'accord.
Marguerite, elle chante à l'opéra, elle chante très bien, donc elle ne sait pas si elle veut travailler dedans. Marguerite a entendu l'émission quand on parlait là et elle m'a dit de vous parler de la mort. Elle me dit que elle la nuit, elle pense beaucoup à la mort, à savoir qu'est-ce qui va se passer et elle est assez angoissée par ça.
Alors vous savez ce qu'on va faire, vous allez juste nous dire ce que Côme veut faire et puis vous allez rester à notre écoute dans un instant. Côme.
Alors, Côme, lui, il veut être scientifique, mais ça change tout le temps.
D'accord.
Il veut être aussi chirurgien.
Ah, c'est bien. Vous savez, est-ce que Marguerite souhaite intervenir dans un instant, justement ? Je pense qu'elle a des choses à partager avec Tiana. On va marquer une courte pause et puis on va essayer de parler avec Marguerite hors antenne. Et si elle est d'accord, Marguerite, tu seras la bienvenue. Tu pourras parler avec Tiana et Monique de Kermadec. À tout de suite.
On est fait pour s'entendre.
Sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Un tweet que nous avons reçu de Marsu. Ma fille nous a demandé à 4 ans entre deux jeux pourquoi nous existions. Ça fait partie des grandes questions philosophiques que posent déjà ces enfants quand ils sont précoces. Alors, il y a un instant, nous étions en train de parler avec Anne, mais on avait terriblement envie de faire la connaissance de Marguerite. Marguerite, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu, Marguerite ?
Bah, bien.
Un petit peu stressée à l'idée qu'on se parle, c'est ça ?
Non, ça va.
Ah, c'est cool, ça nous fait plaisir. Alors, parce qu'ici, tu sais, tout le monde peut parler librement et tranquillement. Marguerite, ta maman, Anne, nous a parlé de toi et puis de tes frères et sœurs également sur l'antenne d'RTL il y a un instant, puisque bon, on consacre notre émission aux enfants précoces. Et visiblement, Marguerite, toi, tu te poses des questions qu'on se pose tous, mais parfois un petit peu plus tard quand même dans l'existence. Qu'est-ce qui te prend la tête parfois avant de t'endormir le soir ?
Des fois, en fait, j'ai rien à penser, même quand je suis très très fatiguée. En fait, je me mets dans mon lit et en fait, je me mets en situation. Enfin, des fois, j'ai l'impression de vivre de ce qu'il y a après la mort. De toute façon, c'est noir,
ouais.
Tout noir,
ouais.
Et c'est froid. C'est-à-dire qu'on fait rien, on reste comme ça et c'est noir.
Comment tu te sens dans ces moments-là ?
Pendant 30 secondes, même pendant 10-15 secondes, je me dis, mais en fait, après la mort, on va s'ennuyer, quoi.
Et ça t'empêche de dormir ?
Non, parce qu'après je pense à autre chose. Juste pendant 5 minutes je pense à ça et après c'est tout.
Alors, je te présente Tiana qui est notre invitée aujourd'hui avec Monique de Kermadec. Tiana, tu viens d'entendre Marguerite. Tu as vécu aussi toi ces moments de flottement le soir avant de te coucher, en tout cas dans ces grandes questions sur le sens de la vie et puis sur la mort.
Ça a commencé très très tôt. Il me semble que vers 5 ans, je disais déjà à maman, mais en fait tu vas mourir un jour. Et j'ai fini par réaliser que j'allais mourir aussi. Et a commencé une grande période d'angoisse où je refusais d'aller me coucher parce que systématiquement, si je m'allongeais, si j'éteignais la lumière, je m'imaginais morte, je m'imaginais que j'allais mourir aussi, j'imaginais le jour où ça arriverait. Et ça me faisait faire des crises extraordinaires,
l'angoisse,
d'une très grande violence que je détestais vivre. Et pour ça, il m'est arrivé de pas dormir pendant plusieurs nuits d'affilée parce que je refusais de me coucher dans mon lit, ça me faisait trop peur.
Alors, visiblement, Marguerite n'en est pas là, mais qu'est-ce que tu peux lui dire à Marguerite, justement, sur ces questions ? Toi qui es passée par là, qui a 18 ans, et Marguerite, forcément, s'interroge sur tout ça.
C'est délicat, je ne sais pas trop quoi lui dire, vu que ce n'est pas exactement la même chose.
Mais ça ne te surprend pas ?
Non, ça ne me surprend pas énormément. C'est une question existentielle, c'est une question que tout le monde se pose un jour. Et un enfant éveillé, un enfant précoce qui a des capacités à se poser plus de questions philosophiques, va forcément se poser cette question à un moment ou à un autre. Une question si énigmatique ne peut que passionner ou obséder un esprit soif gourmand de connaissances et de ce genre de choses.
Marguerite, je te présente Monique de Kermadec.
Oui, bonjour Marguerite. Je voulais te dire quelque chose de très important. La question que tu te poses est une question que les hommes se posent depuis très très longtemps. Tu as peut-être entendu parler des philosophes grecs et sans partir lire dans leurs livres, tu pourras peut-être trouver une lecture qui te montrera les différentes réponses que l'on a essayé d'apporter à cette question de la vie et de la mort. Je crois qu'il est très difficile pour nous vivants de pouvoir imaginer un état dans lequel nous n'aurons plus les mêmes conditions, les mêmes possibilités pour trouver nos réponses. Donc, tu imagines quelque chose qui est effectivement très effrayant, mais qui est quelque chose qui correspond à ce que toi, tu peux penser avec ton esprit, ton corps de vivante. Alors, si cette interrogation doit être poursuivie, je t'en prie, pose des questions à différentes personnes. Tu auras des personnes qui répondront en fonction de leur religion, tu auras des personnes qui répondront en fonction de leur philosophie, de leur connaissance, et d'autres te répondront avec leur cœur, mais tu ne te sentiras plus seule, parce que tu ne seras pas restée toute seule dans le noir et au froid.
Marguerite ?
Oui.
on a tous essayé là de pouvoir échanger avec toi, mais c'est vrai que ce que nous explique Monique de Kermadec, c'est que on n'a pas une réponse précise, mais il est plein de réponses qu'on peut nous proposer. Et puis du coup, ça nous amène à d'autres connaissances. Et comme vous luttez tous contre l'ennui, bah ça peut aussi être une grande source d'occupation.
Oui, est-ce que... c'est tout à fait juste.
Comment
Oui, c'est enfin, se poser des questions compliquées, c'est à la fois un point de détente, mais en même temps pour comprendre pourquoi on est là, ce qu'on fait là, pourquoi on n'est pas, je sais pas, un chien ou un coquillage.
Ouais, je comprends. Monique ?
Je voulais juste te dire, Marguerite, que ce qui est difficile avec les questions, c'est quand nous restons seuls avec elles. Ce qui est important, c'est que nous les partagions avec d'autres et que nous puissions nous rendre compte que d'autres aussi se posent des questions. Et à ce moment-là, nous sortons de notre solitude et nous sommes beaucoup moins malheureux.
Parler, c'est important. Tu parles beaucoup, toi, Marguerite, avec ton entourage ?
Je parle surtout avec ma meilleure amie.
Elle s'appelle comment ?
Lorraine.
Bon, bah écoute, Lorraine, si elle nous écoute, t'as de la chance d'avoir une copine qui s'appelle Marguerite. C'est super. Marguerite, écoute, on va t'embrasser parce que tu sais, on est en direct sur RTL. Donc, tu embrasseras toute la famille, hein, Delphine, Cécile, Mayol, Côme et puis ta maman Anne. Et puis, je ne sais pas si t'es branchée réseaux sociaux, mais tu peux nous donner des nouvelles aussi, tu sais, sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. D'accord ?
Oui.
Je t'embrasse ? Je me permets de t'embrasser, Marguerite.
Oui. Je voulais juste rappeler...
Vas-y.
Aux gens enfin, qui sont précoces, on peut dire,
oui.
être trop occupé pour arrêter ce qu'on fait, pour se débrancher totalement et faire autre chose, être normal, c'est sûrement compliqué. Si on cherche quelque chose de simple, ça peut être possible.
Merci pour ce message et pour tous ceux qui nous écoutent. Donc je t'embrasse toujours, Marguerite, et puis à bientôt sur l'antenne RTL. Salut Marguerite.
Au revoir.
RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Il y a de belles rencontres tous les jours sur l'antenne d'RTL. Voilà, on embrasse encore Marguerite et on la remercie d'être intervenue sur cette antenne. Tiana, merci aussi de nous avoir éclairé de ta présence, de ton expérience.
De rien, merci.
Ça s'est bien passé, non ? En fait, c'était cool, hein ? Très bien. Et donc, je rappelle ton ouvrage, Je suis un zèbre, aux éditions Payot. C'est ton histoire à toi, Tiana, et je te remercie d'être venue jusqu'à nous.
Merci beaucoup.
Monique de Kermadec, merci beaucoup de nous avoir éclairé aussi de vos connaissances. Je rappelle donc votre ouvrage, L'enfant précoce aujourd'hui, le préparer au monde de demain, chez Albin Michel, avec des questions de parents. Je pense que c'est très utile aussi pour les parents qui nous écoutent. Et puis, on vous retrouvera bientôt à l'occasion de la sortie d'un nouvel ouvrage, j'espère. Merci beaucoup, Monique
merci
de Kermadec.
Merci,
et puis demain, sur l'antenne d'RTL, j'aurai le plaisir de recevoir le psychiatre Alain Gérard. On s'est tous entendu dire un jour, tu devrais aller voir un psy. Alors, à tort ou à raison, quand y aller, vers quel thérapeute se tourner, que faire si la psychothérapie est un échec ? Pensez-vous que vous avez besoin d'aide ou êtes-vous contre cette démarche ? N'hésitez pas, 3210 les réseaux sociaux, je suis persuadée que vous aurez beaucoup à nous dire à ce sujet. Ce sera à 15h en tout cas, en direct sur RTL. Tout de suite, voici les surdoués de la rigolade, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes, et moi, je vous embrasse et je vous remercie pour votre fidélité. À demain.
Vous écoutez RTL.